parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Alors déjà, je suis pas vraiment allée au lycée. J'ai pas eu une scolarité typique, à peu près normale jusqu'à la fin de la troisième. Mais la rentrée au lycée, j'ai été déscolarisée très vite. Donc j'ai fait un ou deux mois de seconde économique et sociale. J'ai été déscolarisée. Je suis revenue en cours dans un autre lycée au mois de mars à ce moment-là. J'ai plus ou moins fini l'année. Ah non, pas du tout, je me méprends. Non, j'ai été déscolarisée début novembre. J'ai arrêté pour l'année. J'ai repris l'année d'après dans un autre lycée, quelques mois. Puis j'ai changé au mois de mars. Donc on va dire que j'ai à peu près fini une seconde entre deux bahuts. Je ne suis jamais allée en première ou en terminale.
Et tu voulais faire quoi? C'était quoi ton idée à l'époque?
Être libre, travailler.
Ouais, juste avoir de l'argent et kiffer sa life.
Prendre mon envol, quoi.
Est-ce que tu fais un métier? Qu'est-ce que tu penses cette période là où tu veux prendre ton envol? Est-ce que tu t'envoles? Ouais. Ou
je fais pas de métier parce que j'ai 16 ans et je suis limitée par l'âge et tout ça. Est-ce que aller en soirée techno, c'est un métier? Ça pourrait, j'aurais été la meilleure. J'allais en soirée, je traînais.
Tu kiffais, quoi.
Ouais.
Le métier qui t'a fait connaître, etc. Donc, c'est hardeuse ou je sais pas, actrice porno. Comment t'en es venue à je veux m'envoler, kiffer la life, à ce métier-là qui est pas anodin?
Ben, en fait, même mineure et pas dans le moule scolaire. J'ai toujours eu cette envie de travailler, de gagner ma vie, d'être indépendante, très jeune. Et donc, je suis devenue danseuse dans des bars à Bordeaux. Pas la danseuse sexy qu'on imagine, hein. Non, la danseuse de salsa d'ailleurs. J'ai travaillé dans un bar qui s'appelle la Cali Ocho, où j'animais, je faisais danser les gens. Voilà, c'était danse latine, on était trois filles. Les deux mecs ou trois mecs. Et voilà, notre boulot, c'était que les gens passent une bonne soirée, dansent, consomment. Voilà. Et de là, j'ai commencé à travailler un peu dans plein de bars. Et petit à petit, j'ai commencé à me déshabiller.
Ouais.
Et j'ai eu 18 ans et je suis allée travailler en pipe show.
La pipe journée. C'est quoi, pipe show?
En sex shop, dans okay. Les sex shops. Je travaillais là-bas la journée et je travaillais le soir dans les bars, dans les discothèques, parce que l'intérêt, c'était de prendre un appart, quoi. Squatter chez les uns, squatter chez les autres, c'était pas idéal. Et il fallait un revenu un peu minimum. Et déjà, à l'époque, c'est rigolo parce que j'avais à peine 18 ans et j'essayais d'avoir des plans réguliers. Donc, je disais au club, alors moi, je viens... pour le service, c'est temps. Si tu veux que je monte sur le bar, que je fasse un peu la con et tout, c'est temps. Si tu veux que je sorte mes nichons, c'est temps.
Attends, c'est un caractère déjà à 18 ans.
Attention, si je reviens plusieurs fois, si tu me prends une fois par semaine, trois fois par mois, je te fais un tarot. Parce que je voulais des tafs réguliers. Et c'est déjà cette idée, le graal de l'espèce de CDI avec moi-même. Et donc, par exemple, j'étais tous les mardis dans un club qu'on appelle le Pollux. J'étais la bunny du Pollux. J'étais en lapin, petite lapine Playboy. Et je distribuais des cocktails, le cocktail du lapin, quoi. Et donc, tous les mardis, je faisais la bunny au Pollux. Et c'est vrai que dans ma tête, ça veut dire tous les mardis, j'ai 200 balles. C'était génial. Si tous les vendredis, je suis à tel endroit et le samedi, je me fais un enterrement vie de garçon, un bar, un club. Bon, voilà, j'ai mes 1500 balles et je peux prendre mon appart. Et c'était ça l'objectif, en fait. C'était à la fois, bizarrement, c'est paradoxal, c'était d'être méga libre, mais en même temps, d'avoir le plus d'engagement possible et le plus régulier possible. Donc, vous voyez, on veut s'éloigner très loin de ce que font nos parents et on revient dans le même schéma où on veut de la sécurité.
Bah ouais, parce qu'au final, tu voulais de l'argent, il fallait un loyer. Donc, pour avoir un loyer, il fallait des contrats avec, avec plusieurs entreprises et pour, avoir ton, pour payer ton, ton appartement à la fin du mois, quoi.
C'est ça. Donc, c'était comme ça. Et puis, petit à petit, en rencontrant des gens, enfin, petit à petit, assez rapidement, rencontre des gens. Au Peep Show, il y a d'autres filles. J'ai commencé à faire un peu des photos. Et des photos, on m'a proposé de tourner dans un film. Et j'ai atterri chez Marc Dorcel à l'époque pour mon premier film.
Je vous coupe un instant pour vous remercier pour votre écoute. J'espère que vous kiffez cette conversation autant que je l'ai kiffé. Alors, je voulais vous remercier, mais aussi vous dire de partager cet épisode. Envoyez-le à un ou une pote qui veut se lancer dans le porno ou devenir infirmier ou infirmière. Le bouche-à-oreille est le seul moyen de m'aider. Dites-vous que chaque épisode, c'est entre 8 et 10 heures de travail, donc ça mérite bien un petit partage. J'envoie aussi un mail le dimanche à ceux qui me suivent. C'est un simple message avec des curiosités qui vous donneront le sourire avant de reprendre une semaine de travail. Le lien est dans la description. Alors, à très vite.
Pendant 2-3 ans, j'ai fait un film de temps en temps, mais sans prendre ça comme un boulot. C'était un petit plus. Pour moi, c'était pas une carrière, c'était pas stable, c'était pas viable, parce que je connaissais pas ce milieu, j'en avais jamais regardé.
Donc, une curiosité, c'était quoi?
Non, on me l'a proposé, on me dit voilà, t'es super jolie, machin, on t'a vu en photo, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, dans ma tête, c'était vraiment un job comme un autre, quoi.
Ouais.
Mais c'était pas un truc, c'était pas un business. Mm-hmm. Je voyais pas dans ce milieu que je ne connaissais pas en fait. Comment je pouvais en vivre? Il n'y avait pas de carrière. Il y avait pas. C'est cool, toi, il m'appelle. J'ai fait 4 films ou 5 films, peut-être 4 films la première année. À chaque fois, j'ai pris entre 500 et 800 balles. C'était un vrai plus parce que c'était en semaine. C'est des jours où je n'étais pas booké ailleurs.
Ouais, toi, ça rentre dans ta stratégie.
Parfait.
Comme la maximum la semaine.
Au bout de 2-3 ans, à force de rencontrer d'autres actrices et tout, je me suis dit, en fait, elles font des thunes, elles peuvent signer un contrat d'exclu avec un site pour leur scène. Et voilà. Et j'ai signé un contrat en CDI pour de la webcam.
Ah, donc, c'est avec Marc Dorcel? C'est Marc Dorcel qui fait les webcams? Et non, c'est vraiment un autre.
À l'époque, c'était V Communication, c'était une autre boîte qui faisait. Ils ont été les premiers en France à faire de la webcam et ils proposaient à toutes les actrices, jeunes, moins jeunes, débutantes, confirmées, des contrats en contrat de durée indéterminée, salarié de la boîte. Mmh. Donc, c'était un SMIC pour un nombre d'heures minimum de webcam. Et donc, j'allais 2 journées par mois, 2 journées d'affilée, parce que je n'avais pas Internet à la maison, on parle d'un autre temps. Et j'allais jusqu'à Sedan, à l'époque, depuis Bordeaux, une fois par mois, pendant 2 jours, faire mes heures de webcam. Et je gagnais mon SMIC. Donc, c'était royal. Quand je pouvais, j'y allais même 2 fois ou 3 fois pour faire des heures sup. Et ça a été le début du confort. Ce n'est pas un grand confort. Mais pour quelqu'un comme moi qui venait de nulle part, gagner un SMIC, plus avoir ces petits trucs dans ces clubs, plus sont arrivés les premiers bookings en salon érotique. Genre, hey, jeune actrice, tu n'es pas connue, mais en fait, on met des actrices un peu sur tous les stands pour faire des autographes, pour faire des striptease. Et en fait, petit à petit, en cumulant tout ça, j'arrivais à gagner 2005, 3000 balles par mois. En vrai, je m'arrêtais là, je n'avais pas besoin de gagner plus, j'étais hyper contente. Et j'avais tout claqué en boîte.
Mais quand tu as commencé là, les premiers films sur les 3 ans, un truc qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas formé à faire ce métier.
Non.
Et je me dis, est-ce que c'est pas difficile justement d'arriver dans ce milieu-là ou qui, de l'extérieur, peut paraître super étonnant, super curieux, parfois dur. Et toi, tu n'es pas formé, tu arrives là-dedans. Comment on apprend?
On apprend parce qu'on travaille avec des réalisateurs qui dirigent. Le réalisateur, il sait très bien que la production lui a mis une nouvelle, que c'est son premier tournage. C'est son travail de lui dire comment se placer, comment se tenir. Il y a des assistants sur le tournage qui disent là, Émilie, tu es attendue au maquillage à telle heure, ensuite tu vas faire ça. Bon, c'est assez naturel, en fait. C'est assez naturel. À l'époque, moi, il m'avait fait arriver 2 ou 3 jours avant ma scène à proprement parler, le moment où j'allais me retrouver avec un garçon, pour que j'observe un peu comment ça se passe, que je rencontre les gens, que je discute et tout. Mais c'était pas une pratique très courante, mais c'est ce que faisait la société Marc Dorcel. Après, c'était Marc Dorcel. Moi, je n'ai pas débuté dans des trucs amateurs, glauques, casting, machin. Aujourd'hui, je dirais, n'importe qui veut débuter, Il y a la charte déontologique, elle est en ligne, il suffit de la lire pour connaître les conditions de travail que tu es en mesure de demander. Maintenant, le métier en lui-même, ça s'apprend en pratiquant. Faire l'amour en soi, tout le monde sait faire. Baiser, s'envoyer en l'air, normalement, tout le monde sait à peu près faire aussi. Le faire pour la caméra, le faire avec envie, avec style, avec désir, tout ce qui font que certaines actrices sont des superstars et d'autres resteront des cercueils à niquer toute leur vie, parce qu'il y a des actrices, c'est des vrais cercueils. C'est un enfer à filmer, ça doit être un enfer à limer. Ben c'est la pratique, c'est l'envie, c'est le fait de se rendre compte que voilà, à un instant T, on a besoin que tu te transcendes, on a besoin que tu bouffes ton partenaire comme si c'était le premier et le dernier de ta vie, on a besoin que tu sois ton personnage, des fois plus balbutiant, plus machin, et ça, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais jouer avec les caméras, tu sais te comporter sur un plateau ou tu sais pas. On va t'apprendre les horaires, on va t'apprendre les conditions de travail, on va t'apprendre à lire ton contrat, on va t'apprendre à faire une prise de sang correcte telle qu'elle est attendue, on va t'apprendre... voilà ce que c'est que de revenir à ta position initiale, à faire tes séquences pour les raccords. On ne peut pas t'apprendre à avoir du chien, on ne peut pas t'apprendre à être quelqu'un, et on ne peut pas t'apprendre à gérer ton business puisqu'il n'y a pas d'agent en France.
C'est ça aussi, il n'y a pas d'agent. Est-ce qu'en bon. Amérique du Nord, il y a des agents, mais il n'y en a pas en Europe, ou... C'est ça, donc c'est plus professionnalisé, on va dire, en Amérique du Nord, j'imagine.
Ouais, aux États-Unis, en Hongrie aussi, en Tchécoslovaquie, ou République tchèque, je ne sais pas, à Prague, quoi. Mais non, en France, il n'y en a pas. En Angleterre, il me semble qu'il n'y en a pas non plus. En Espagne, il y en a, mais ce n'est pas officiel, donc c'est un peu ouvert à toutes sortes de dérives. Donc, ouais, malheureusement, c'est toi et toi-même qui, à un moment donné, tu as la tête sur les épaules et tu décides de prendre un comptable et d'avoir un statut correct, de payer tes impôts. Tu décides que ce film, tu vas le faire parce qu'il est intéressant pour toi, ou tu vas le faire parce que tu as besoin de payer ta facture de téléphone et que bah, tu n'as pas le choix. Et ce n'est pas du tout le même mood. C'est sans prétention que je dirais que je venais d'une vie plus jeune qui avait été tellement en dents de scie, avec des difficultés réelles d'un point de vue matériel et affectif aussi, mais surtout matériel. Ce qui fait que c'était déjà tout réfléchi, quoi. J'acceptais pas de faire un film si j'avais pas un rôle important. J'acceptais pas de faire un film si j'avais pas ma place sur la jaquette. J'acceptais pas de faire un film si j'avais un cachet qui correspondait pas à ce qu'on m'avait proposé au début chez Dorcel. Après, j'ai eu de la chance, j'ai commencé chez Dorcel.
Ouais, t'as commencé. Alors, je connais pas trop tout l'environnement des maisons de production externe, mais j'ai mis une marque Dorcel, c'est quand même le plus haut niveau direct.
Ah bah oui,
c'est donc t'as eu une bonne éducation directe.
On peut commencer chez Dorcel, faire ses premières scènes et disparaître dans l'abîme total des merdes qui existent dans ce métier, parce qu'on n'est pas stable, parce qu'on prend pas ça comme un job, mais comme dans tous les jobs en fait. On peut choisir de devenir coiffeuse et travailler toute sa vie dans un salon d'une grande chaîne, d'une grande marque. Avec une évolution de salaire un peu bof, et ça peut nous plaire complètement et on est ravis. Comme on peut aussi se dire alors je vais travailler un an ou deux là pour me faire la main, ensuite je vais me former à ça, ensuite je vais me former à ça, et à terme j'ai mon salon, voire même j'arrive à ouvrir une franchise, et peut-être même que je vais faire des cosmétiques, et puis je vais m'utiliser les réseaux sociaux. Bon, là on parle d'aujourd'hui, moi je parle à l'époque en 2004, c'est un peu différent, mais moi je suis quelqu'un qui a à cœur l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais fait quelque chose en me disant autre chose qu'en ayant déjà l'étape suivante dans ma tête, quoi.
Et donc, quand tu commences à faire ces webcams, dans ta tête, tu as déjà un plan, tu as déjà une ambition dans ce domaine ?
Le plan, c'était d'intégrer l'équipe de V-Communication. À l'époque, c'était la deuxième ou troisième grosse prod en France. Il y avait Dorcel, Hot Video et V-Com. On parle d'un temps où Hot Video n'appartenait pas à Jackie et Michel, bien sûr. C'était un média, c'était le plus grand magazine de charme et qui produisait un film par année. Et donc, l'intérêt, c'était d'être rapidement dans le blockbuster de Dorcel, dans le blockbuster de Hot Video et dans le blockbuster de V-Com. Donc, intégrer l'équipe V-Com pour la webcam, c'était avoir un revenu de base fixe qui me permettait de dire non à encore plus de projets. Ce qui était déjà le cas, parce que j'ai eu mes premières années, donc de 2004 à 2009, j'ai vraiment très, très peu tourné. J'avais comme pour principe que la rareté fait la valeur.
Ok.
J'avais décidé ça et je ne me suis pas trompée. Mais en gros, voilà. Et ce qui fait que ben, si j'arrivais à rentrer dans cette boîte, ben, j'arrivais déjà à ne pas nécessiter économiquement de me présenter sur un tournage. Et ça, c'est un réel avantage.
Alors, ta stratégie, ça rend parfaitement. Tu veux être le moins visible possible dans les films, mais il te faut en revenir.
Je veux que quand on me voit dans un film, ce soit le film de l'année. Pas juste le film qu'on consomme comme ça. Je veux que ce soit le film dont on parle dans notre vidéo, dont on parle dans le journal du Hard, le film qui passe sur Canal+, le film, voilà. Quitte à en faire 3-4 dans l'année, bah, autant que ce ne soit pas n'importe lesquels. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des loupés. J'ai fait des trucs, des fois, où je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ce tournage ? Un peu de pognon, un ami d'un ami qui dit, allez, s'il te plaît, dépanne, bidule, truc. On fait tous, voilà. Et puis, à un moment donné, après ces quelques années de travail... je me suis rendu compte qu'en fait en France je me plaisais pas parce que j'avais pas l'impression d'être connue à ma juste valeur. Ça me saoulait, ces petites meufs qui arrivaient de nulle part, qui faisaient 6 mois les starlettes couvres de tous les magazines nanana, et qui disparaissaient comme elles étaient venues, sans aucun respect pour les vrais travailleurs de ce métier. Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie en Hongrie.
mais là aussi, je trouve déjà que tu avais quel âge à cette époque ? Parce que j'ai l'impression que tu es très jeune depuis le début, que tu as commencé très jeune à te débrouiller toute seule, ouais. Avec un caractère assez...
commencé le X à... Ma première scène, j'avais 19 ans, donc en septembre, et j'ai eu 19 ans le 30 août. Donc ça, c'est ma première scène. J'ai quitté la France à... Ouais, c'était en 2009, donc je devais avoir 24 ans.
24 ans, tu pars en Hongrie pour...
Après, je dis j'ai quitté la France, je suis partie en Hongrie un mois. Hein. Je suis pas partie, je suis partie un mois, j'ai tourné pour d'autres trucs. J'ai découvert d'autres choses, j'ai découvert d'autres gens, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un agent, de travailler tous les jours, de tourner tous les jours, parce que là, c'est l'inverse. Là, il faut y aller, il faut le faire, il faut être vu. C'est la quantité. Wow. C'était la quantité, c'était pas du tout le même business plan qu'en France où on tournait très peu, la petite star française qu'on voit pas beaucoup, machin. Là, c'était pas du tout pareil. Et là, j'ai commencé à vouloir ma part du gâteau, en fait. Ouais, à me dire, c'est cool de se contenter de 2 500 ou 3 000 balles par mois. Je vis bien parce que je viens d'un milieu où on manque de tout. Mais en fait, non. Moi, je veux acheter mon appartement. Je veux pouvoir emmener ma mère en vacances. Allez, feu, je voyais les meufs. Je ne dis pas que ça me faisait envie, mais elles avaient les Vuitton, les Hummer. Ça sortait dans des grandes discothèques parisiennes. Moi, je ne faisais rien de tout ça. Et donc, ça m'a mis un petit peu... Je me suis mis un coup de fouet. Je suis partie à l'Est. Et quand je suis rentrée en France, grosse déception. Ça n'avait rien changé. J'étais une actrice parmi les autres. Loin d'être la meilleure, loin d'être la plus attendue, loin d'être celle en qui on a le plus confiance. La seule chose qui était bon pour moi, c'est que j'étais professionnelle. C'est-à-dire, quand je disais que je venais. Il fallait me fournir le billet de train, le contrat, le lieu, le ci, le là. Je ne partais pas à l'arrache. J'ai toujours fait très attention à moi. Mais j'étais carrée, j'étais là, j'étais à l'heure, j'étais propre, je faisais mon taf.
Tu gérais ton entreprise, en fait. Tu étais un peu chef d'entreprise, tu avais ton business. Et...
Ouais, mais je ne perçais pas, quoi.
Pourquoi tu ne perçais pas en France et en Hongrie, tu as percé justement
parce que c'était une époque de contract girl, j'en ai vu passer, hein, des Elena Carrel, des Carla Nova, des Oksana Darkour, des. Comment elle s'appelait elle, Stella Delcroix, Axel Parker, toutes ces petites starlettes là, ça arrive, ça fait quelques mois, ça disparaît. Sauf que les quelques mois où elles sont là, elles ont toutes les interviews, toutes les covers de DVD, tous les premiers rôles.
Mais pourquoi c'est leur réseau, c'est quoi qui fait ça? Pourquoi elles arrivent et elles ont tout?
Le réseau, le physique. Je pense qu'à un moment donné, tu es considéré comme un acquis, tu es là, tu fais partie du milieu.
Ouais, okay.
Ils avaient déjà, je pense, vu que je finirais comme une Katsuni ou une Nomi ou une. Une meuf qui ferait partie des murs, quoi. Qui ferait partie des fondations du porno français.
Ouais, elles étaient un peu bling-bling parce qu'elles étaient nouvelles et pas là pour longtemps. Quoi. Ah,
c'est un peu ça. Elles arrivaient avec leur mec over-bodybuildé. En plus, elles tournaient qu'avec leur mec. Donc, pour moi, c'était pas des actrices déjà. J'arrêtais pas de péter un câble là-dessus. Je pétais un câble. En fait, c'est pas des actrices, c'est des exhibitionnistes, c'est pas des professionnels. Ah, c'était une horreur. Mais pas que pour moi, hein, pour plein de filles de l'époque. Hein. plein de filles de l'époque qui travaillaient, quoi, qui bossaient, qui étaient là.
Et c'est injuste, vous trouvez ça, c'est un peu une injustice.
Ah ouais, c'est injuste.
Pareil, ta carrière.
Il y a eu une autre vague de meufs qui venaient pour le plaisir. Ça a été l'arrivée des Penelope Tiger, Eliska Cross, Angel Summer, Lou Charmel. Et ça a été une vague cool parce que c'était des petites meufs qui faisaient des super performances, qui adoraient baiser, qui pensaient pas trop mal en termes de carrière, qui se laissaient pas faire, qui voulaient partir aux États-Unis. Et c'est avec elles, moi, que je me suis bougé le cul après à partir aux États-Unis. C'est avec cette bande que j'ai vu arriver.
Tu les as rencontrées en France et c'est elles qui t'ont, c'est avec elles que tu es partie après aux États-Unis.
Ouais, avec Lou, Angel, Jessie Volt. Et très rapidement, une autre vague, Nikita Bellucci, Coco Charnel, Anna Paulina. Et ça, ça a été des vagues de meufs plus carrées, plus posées, plus... ouais, qui donnaient un peu plus de challenge aussi, parce que tu sentais qu'elles voulaient rester, tu sentais qu'elles voulaient bien faire, tu sentais que ça se tirait la bourre. Hein. Oh, yo, 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 yo.
Tu te tires la bourre, c'est-à-dire que tu veux être dans le film ou dans la production qui va faire ce film, les productions les plus réputées, c'est ça la compétition.
Ah bah ouais, les meilleures productions. Brothers vient tourner en France, il fallait être dessus.
Ouais,
il fallait être dessus.
Mais vu que tu n'as pas d'agent, c'est toi qui te débrouilles et qui va contacter Brothers, je ne sais pas, moi, qui trouve ton réseau par toi-même.
Ah ouais, mais qui va réaliser pour eux, ils viennent en France. Ah, c'est Christophe Clarke. Ah ouais, putain, il faut y être, machin, qui sont les acteurs. Non, 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 bah c'est ça. Et on se tirait la bourre, hein. On se tirait la bourre. Parce qu'en plus, à l'époque, Internet se développait de plus en plus et il y avait des classements. Il y avait des classements sur X-Star News, sur La Cochonne, enfin, il y avait des sites. Et il y avait un site Eurobabe, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus le nom de ce site. J'y suis allée quotidiennement pendant des mois et des mois.
Où tu apparaissais dans le ranking ?
Bah ouais.
Et c'était quoi ? C'est le plus de vues ? Ou c'est comment que c'était fait ce ranking ?
Mais j'en sais rien. Mais c'était trop bien d'être la première française. Il fallait être la première. Les seuls qui avaient le droit d'être devant nous, c'est Katsuni et Mélissa Lorraine.
Ouais, c'est parce tout. Que c'était les stars quoi, déjà là. Après, sinon...
voilà. Mais même les Dorsel Girls, elles n'y étaient pas parce qu'elles ne travaillaient pas assez et qu'ils ne jouaient pas le jeu de l'Internet, Dorsel à l'époque. Mmh. Donc, ouais, c'était...
Et quand tu dis vous tirez la bourre, c'est quoi exactement si tu vas essayer de passer avant et voir la réalisatrice ou le réalisateur en premier, c'est ça ?
Ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, on ne va pas les voir avant. Dans notre business, les réals, on se comporte très bien sur un tournage, on est très cool, on rigole bien, patin, coup fin, et on espère qu'il nous refera bosser. Mais on n'irait certainement pas appeler un réalisateur. Ah, tu vas faire un film ? Ah, ça serait bien que tu me prennes.
Comment tu fais alors ?
Bah, t'attends qu'il ait un budget et t'espères qu'il va te faire travailler.
Mais comment tu te fais, je sais pas, comment tu te fais connaître comprends. Par ton expérience, par ton CV, quoi.
C'est ça qui est débile, c'est qu'au final, on pouvait rien faire pour changer la donne.
Ouais, c'est donc, ça, c'est ça que je me dis, j'ai l'impression que c'est comme ça, quoi. Votre CV, il est là.
Mais dès que, par exemple, dans le traditionnel, une série télé ou un film de cinéma, il prenait un ou deux acteurs X pour un truc, ah ben, fallait être celui-là, quoi. Parce qu'il y avait une sorte de truc un peu legit. C'était ça, c'était « Ah, tiens, on a vu sur son blog, elle a fait 3 discothèques cette semaine. Est-ce que du coup, elle est plus connue que moi ?»
T'étais en Hongrie, puis ensuite, t'es revenue en France, j'ai cette nouvelle vague d'actrices, et là, tu pars aux États-Unis.
Ouais.
Et là, j'imagine, les États-Unis, c'est tout un autre monde pour le porno.
Bah, un autre monde. C'est une autre dimension dans le sens où c'est extrêmement professionnalisé. Donc, forcément, l'agent à Budapest, il travaille très bien. Lui, son boulot, c'est de trouver des boulots. Il va trouver des boulots. Il va trouver un hébergement. Voilà. Mais c'est pas aussi carré dans le sens où je suis pas certaine que mon chauffeur avait le permis. Il roulait comme un dingue. que des fois, je tournais pour des gens. Je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas ce que j'étais en train de faire. C'était voilà. Il y avait pas le plan de carrière. Il y avait pas tous ces questionnements là. Mais la période où je suis partie, c'est pas vraiment ce que je cherchais. Je voulais m'émanciper, surtout de l'Hexagone. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, déjà j'étais attendue parce que ça faisait je sais pas 5, 6, 7 ans que je tournais en France. Donc j'étais attendue. J'avais tourné une scène avec Manuel Ferrara un été où il était passé à Bordeaux et elle avait cartonné, et ça avait marché de ouf. Donc je suis rentrée tout de suite comme Spiegler Girl, les fameuses Spiegler Girl.
C'est quoi ça ?
Bah, Mark Spidler, c'est un agent qui n'a qu'une vingtaine d'actrices triées sur le volet qui ne sont que des superstars.
Ah, et t'as réussi à être. C'était ton agent.
Bah, j'ai pas réussi, c'est qu'on m'a dit. Enfin voilà quoi, quand je suis partie, c'était vu que c'était Spidler quoi. J'ai échangé avec lui, c'était réglé, je partais pour lui. Les Françaises qui partaient étaient pas nombreuses et quand elles partaient pour Spidler.
Ok, donc tu pars pour Spidler et aussi en parlant de Manuel Ferrara, en parlant d'acteur, est-ce que c'est un objectif en tant qu'actrice de jouer avec certains acteurs et inversement certains acteurs de jouer avec certaines actrices ou pas,
ça l'était à l'époque. Ça l'était à l'époque parce qu'il y a des acteurs qui avaient leur série. Donc, être dans leur série, c'était des séries pour des grosses prods comme Evil Angel, comme Elegant Angel. Donc, c'était intégrer des grosses productions. Donc, oui, il y avait quelques objectifs. Il y avait des grands noms. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis, si tu vas faire de l'interracial et que t'évites Lexington Steele, tu t'évites quand même une sacrée exposition parce que c'était quelqu'un.
Ok. Donc là, aux États-Unis, on était avec ce grand agent, j'imagine.
Ouais, ce grand agent qui s'avère une immense déception.
Ouais, tu vas comme dans des prods que tu connais pas et t'as un chauffeur qui
Il a été très bien pour ma carrière sur le moment parce que quand tu arrives comme une Spidler Girl, t'es respecté tout de suite, on te prend au sérieux. T'es chez Spig, mais les conditions n'étaient pas celles que j'attendais parce qu'au final, il s'est avéré finalement dans sa manière de faire. Tout aussi amateur que ce que je connaissais en Hongrie. En gros, j'étais trop indépendante pour travailler pour ce mec. Il m'avait pas laissé le choix, il m'hébergeait chez lui. Et je parle pas du. Il a pas été désagréable dans le sens. Il a essayé de me pécho ou quoi. Pas du tout. C'était autre chose qui me mettait mal à l'aise. C'est que déjà, je suis chez lui, donc j'ai pas de liberté dans le sens. Un jour, à 14h, je lui dis je vais au mall, donc le centre commercial. J'avais bossé le matin. Je bossais le lendemain, ma call time, elle devait être chauffeur à 10h. Je me dis, vas-y, il est 14h, il fait méga chaud, je me fais chier dans l'appartement. Je quittais pas ma chambre parce qu'en fait, il avait un chat et il y avait des poils partout et je supportais pas, c'était vraiment crade. Et je suis ultra maniaque. Donc, c'est vrai qu'à part ma chambre et le balcon, je faisais pas grand-chose. Donc, je lui dis, bah, je vais au mall. Il me répond, non, tu vas pas. Je dis, pardon. Il dit, si tu vas, tu vas être malade. Je lui dis, mais attends, mais ça sort d'où ça? Je dis, tu as cru que j'avais 12 ans? Tu as cru que tu étais quoi, mon père? Je supportais pas d'avoir une laisse. Et on s'était frité là-dessus. Et des conneries, toi. Je lui dis, ah, je vais descendre faire une lessive parce que c'était un espèce d'immeuble avec des petits appartements, la piscine au milieu et il y avait les lessives un peu au sous-sol. Et je vais faire une lessive. Il me dit, une seconde. Et il me sort son tas de linge. Je lui dis, mais gars, t'es ouf. Si je t'avais proposé à la rigueur, j'ai pas assez de linge, j'aime pas gaspiller la flotte, la lessive, le machin, je t'aurais proposé. Ouais. Mais en fait, non, m'impose pas. J'avais la litière de son chat dans ma salle de bain. Il tapait dans ma bouffe constamment. Enfin, il m'a rendu ouf. Vraiment, il m'a rendu.
Combien de temps, c'est
lui ? Je suis restée. Je devais rester 3 mois. Je suis restée 2 mois. Au bout de 2 mois, je me suis escape au possible. Je ne supportais plus. Je payais ma chambre. Donc, j'avais un petit lit et une commode. Littéralement, un lit et une commode. Je payais ça à 250 balles la semaine. Enfin, bref, il me rendait ouf. Et en plus, des manières de faire. Genre, il rentrait dans ma chambre à la volée. Tomorrow, anal, 8 a.m. Alors, pour qui, pourquoi, okay. Comment, j'emmène quoi dans ma valise, c'est quelle prod, et c'est bon, je sais ce que je fais. Alors, j'étais pas tombée du nid, quoi, tu vois. Il avait eu probablement pour habitude d'avoir des actrices françaises qui arrivaient un peu genre je connais rien, qui n'avaient pas 7 ans de métier, qui n'avaient pas. Donc bon, forcément, ça n'a pas très bien fonctionné.
Ouais, toi, tu as le caractère, hein,
aussi, probablement. Et d'ailleurs, dans son site, il y a un passage secret. Si on clique sur un des points, sur spiglergirls.com, il y a un point sur lequel on peut cliquer, un point à la fin d'une phrase, et on tombe sur le listing de toutes les actrices qu'il a représentées. Et il m'a supprimé. Je suis pas dedans.
Ah, ça s'est vraiment pas bien passé, alors. C'était réciproque.
Je pense qu'il est aussi rancunier que je le suis, voilà. Et donc, je suis partie, je suis littéralement passée par la fenêtre, littéralement. Je suis partie, je suis allée vivre chez un acteur, chez Prince Yashua, pendant les 3 semaines qui me restaient. Et j'ai bossé pour Derek Hayes, donc une autre agence, où là, vraiment, je me suis dit, ah, on est dans le sérieux, quoi. Le mec, il me fait signer un contrat avec l'agence, déjà. What the fuck? Il me fait pas des malversations du genre sur le contrat, tu mets un faux numéro d'identité, un faux numéro de sécu, nanana. Non, non. Lui, il me dit voilà, c'est l'agence qui va encaisser ton argent et tu vas ensuite récupérer ton argent. La commission, elle est de temps, alors qu'avec Spiegler, il me manquait encore des chèques. 3 mois après, je n'avais pas été payé de certaines scènes et il ne se battait pas tellement pour récupérer nos thunes parce qu'il avait l'habitude que les meufs étaient là et qu'elles patientent. Sauf que moi, en Europe, je ne quittais pas un tournage sans mon argent. Donc, déjà, quitter le tournage sans mes sous, c'était hyper traumatisant. Et me dire que je devais attendre après ce mec pour récupérer mes thunes, ça me rendait dingue. Et donc, ouais, j'ai atterri chez Derek, avec qui on s'est bien entendu. Parce que, peut-être parce qu'il est européen, il est anglais. Et qu'il est, il est dans le genre hyper froid, hyper glacial, hyper droit. Une meuf qui est en retard sur un tournage, c'est une amende directe. Une meuf qui annule 2 tournages, elle peut quitter l'agence. Si on dit que t'es pas propre, t'es machin, t'es bidule, t'es truc, avertissement. Enfin, c'est carré, quoi. Et tu reçois un email de booking. Bon, il t'appelle. Voilà, il y a ça, ça, ça pour toi. T'es OK, t'es pas OK. C'est intéressant parce que ça. C'est peu intéressant parce que ça. Tu peux avoir une conversation, quoi. C'est trop bien. Et tu reçois un email qui te dit qu'à telle heure, ton chauffeur va te récupérer à tel endroit, que tu dois emmener telle chose pour tourner telle scène dans tel contexte, pour tel site ou tel prod ou tel réalisateur, que le photographe, ce sera bidule, qu'il y a un maquillage sur place où tu dois te maquiller avant, que tu vas tourner à tel endroit et que tu vas être payé tant pour telle pratique. Et ça, c'est genre, yay!
Wow.
L'email, il est genre, tu te dis, OK, je sais où je vais.
Ouais.
Et il précisait même des fois, tu vas être réglé en cash ou paiement par l'agence. Et je récupérais mes sous à chaque fin de semaine. J'allais voir la comptable. Il y avait une comptable. Il n'y avait pas juste Mark Spiegler allongé dans son lit toute la journée à décrocher au téléphone. Il passait littéralement sa journée allongée dans son lit comme ça. Donc, ouais, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plus plu, même si forcément, c'était une agence qui avait 150 filles et garçons, des dizaines de décors, des dizaines de techniciens, de réalisateurs. C'était une grosse machine. Mais je ne me suis pas sentie perdue dans la masse. J'ai vraiment eu l'impression de bénéficier d'un service et je savais pourquoi je payais une commission.
Ouais.
Je suis rentrée en France au bout des 3 mois. Je suis revenue en janvier parce qu'il y avait les AVN et j'avais été nominée 4 fois. Et j'ai retourné quelques scènes à ce moment-là. Et je suis revenue à nouveau 3 mois. En gros, j'avais une période prédestinée pour venir. C'était avril, mai, juin. Avril, mai, juin, parce que pour qu'un film soit nommé aux AVN, il faut qu'il soit sorti avant l'été et qu'il ait fait ses 5000 ventes ou vues ou je sais plus. Mmh. Avant
AVN,
quelle date.
C'est quoi exactement?
C'est les awards à Las Vegas. C'est une grosse cérémonie à Las Vegas.
Ouais,
moi, je visais ces films-là.
Ouais.
je venais à une période où on tournait ces films-là. Ça sert à rien. Tu peux venir septembre, octobre, novembre, tu vas bosser. Mais des films qui ne seront pas éligibles aux AVN.
Ouais, alors, toi, tu veux...
Ah bah moi je voulais ça, moi je voulais la gloire intra-business. J'en ai jamais rien eu à faire d'être connu en dehors de cette industrie. J'acceptais pas les interviews hors X, les trucs. À l'époque, il y avait une émission en France où toutes les actrices allaient qui s'appelait La Méthode Coé. Ça m'intéresse pas. Passer sur TF1
à minuit,
montrer mes seins. Pourquoi faire en fait? À part avoir un contrôle fiscal, j'allais gagner quoi? Rien. Moi je suis pas payée parce que tu regardes le film. Je suis payée parce que je suis dedans.
Mm.
Donc, j'en ai rien à faire, en fait, de faire mon auto-promo. À l'époque, les réseaux sociaux... les réseaux sociaux n'existaient quasiment pas. Twitter s'est ouvert vraiment. J'étais aux États-Unis. Et c'est une actrice qui m'a aidée à créer mon compte et qui m'a un peu parrainée en me postant, me repostant sur Twitter. Et ça m'a servi. À la base, je l'ai fait parce que commençaient les liens d'affiliation. On tournait de plus en plus pour Internet.
Mm-hmm.
Et on m'avait expliqué que quand je postais le lien vers ma scène, je pouvais avoir un code dans le lien. Et à chaque fois qu'on achetait la scène par ce lien ou qu'on se créait un compte par ce lien et qu'on dépensait de l'argent, même pas forcément sur ma scène, je gagnais quelque chose.
Mm-hmm.
J'ai ouvert Twitter uniquement pour ça. En me disant, attends, moi, je suis payé qu'une journée. Le truc va être exploité. Je signais pour 99 ans. Ça paraît assez normal. Des espèces de royalties. Et je suis rentrée sur les réseaux sociaux à la base pour ça, sur Twitter pour ça. Et Instagram, je l'ai créé en 2017. Donc, il s'est passé de l'eau sous les ponts. Bien plus tard et pas du tout pour les mêmes raisons. Donc, du coup, ouais, je suis rentrée des États-Unis la deuxième fois à l'été 2012. Donc, je suis rentrée en juillet, début juillet. Et je suis rentrée pour acheter ma maison. Genre, ça y est. Je peux acheter ma maison.
Ah, pour toi, ok, tu avais assez d'argent pour avoir.
C'est mon objectif.
Mais quand tu étais aux États-Unis, par contre, je crois avoir entendu que tu tournais tous les jours, tout le temps.
Ouais, ouais.
Mais t'es pas KO à la fin
Non, tu vois. Aujourd'hui, j'ai du mal à tenir une journée, une journée juste à m'occuper de ma fille parce que je suis enceinte, mais à l'époque, j'avais beaucoup d'énergie, tu vois. Après, j'avais une hygiène de vie, je sortais pas, je faisais du sport, je rentrais du boulot, c'était la douche, j'allais direct à la piscine de l'endroit où j'avais mon appart, j'allais nager, je passais, je sais pas combien d'heures de ma vie j'ai passé sur un elliptique, des milliers d'heures.
Comprendre. Mais une scène qui va, je sais pas, qui va durer 20 minutes, c'est combien de temps de tournage? Parce que je
Oh,
pense que c'est
ça dépend du réalisateur.
donc ça peut changer.
Moi, réalisatrice aujourd'hui, pour avoir une scène de 10-15 minutes, il me faut au moins 4 fois ça en rush, à deux caméras. Parce que je suis un peu chiante sur ce que je veux. Voilà. Et parce que j'aime bien que ça bouge, les positions, il faut que j'ai plusieurs axes. Voilà. Une scène de 20 minutes chez Dorcel, bon, ça n'existe pas vraiment. Les scènes, elles durent au moins une demi-heure, voire 45 minutes. Ça peut être 3 heures de travail. D'autres prods, je ne sais pas, aux États-Unis régulièrement, tu arrives, tu fais tes photos, tu fais ta scène. Alors le thème, c'est les gros seins. Allez-y.
C'est parti.
Et en gros, tu t'éclates pendant 45 minutes, tu sais te positionner, tu vois où sont les lumières, tu vois où est la caméra, fla, 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 fla. 45 minutes, allez-y, maquillage, on fait les photos de tout ça, merci, au revoir, fin de journée. T'es arrivé, il était 10h, à 14h, t'as fini.
Ok, ouais, c'est clean.
Quand il y a d'autres tournages où pour une scène de 20 minutes, tu vas y passer 12 heures parce que c'est
12 heures.
Gazman ou Tanya Hyde qui refont leur lumière à chaque position, qui refont un décor à chaque position, qui te refont un make-up à chaque position,
Mais t'as
et
pas mal ou ton corps est...
qui la font
12
sans
heures?
capote, avec capote, en soft, en hard, en machin. C'est le taf, hein.
Tu le fais, hein. Et quand tu rentres en France, t'achètes ta maison, là, est-ce que
Ouais.
tu vas arrêter ta carrière? Tu te dis c'est bon, j'ai atteint la
Non, moi
gloire.
je m'étais engagée sur un visa K, donc je devais me fiancer avec quelqu'un aux États-Unis pour partir vivre là-bas, un ami. Et en fait, je suis rentrée, j'ai acheté ma maison, je suis allée tourner pour Dorcel au mois d'août.
T'es revenu avec Dorcel, ouais.
Ben, c'était la première fois qu'il me refaisait bosser depuis qu'il m'avait fait débuter, figure-toi.
Wow.
Ils m'ont fait débuter, j'ai fait deux films pour eux. Ils m'ont plus jamais fait bosser entre 2005, 2004, ouais, 2004, 2005 et 2012.
Ok. Mais là, t'étais quand même devenu méga connu aussi,
Ah oui,
sur
ah bah là, forcément,
avec
l'IVA, elle est en
l'Anglais, les
France.
États-Unis, la France.
Ah bah oui, ouais. Et je suis allée sur ce tournage, et sur ce tournage, bah, j'ai rencontré quelqu'un, et il n'a plus été concevable que je reparte, quoi.
Quand tu as rencontré cette personne,
J'ai arrêté. Bah déjà, j'ai arrêté. Bon, déjà, il n'était pas question que je reparte. Et en Europe, il y avait une petite épidémie de syphilis. Et je me suis octroyé 3-4 mois le temps de voir ce qui se passait. Et au final, bah, ça nous a servi, entre guillemets. Parce que quand tu commences une relation par 3-4 mois d'exclusivité, alors que je n'avais jamais eu de relation exclusive, on y prend goût. Franchement, c'est pas mal. Et ça a été hyper difficile parce que je suis revenue au boulot quelques mois, mais très peu parce qu'au final... Début 2013, je mentais pour pas aller en tournage. Genre, je prenais un tournage, j'étais hyper contente. Et en fait, je me lavais le cerveau, j'en dormais plus. Je lui en foutais plein la gueule à mon mec de l'époque. Alors clairement, il était pour rien. C'est juste que moi, j'angoissais. Moi, je le vivais mal. Et j'avais une fois, j'ai raconté quoi? Je suis tombée en vélo, je me suis cassé une côte. Vous pouvez pas être une meuf qui plante. Moi, je suis une meuf fiable. Du
Dans ton
coup,
cerveau, fallait un truc qui ait du sens. Alors, tombe à vélo, c'est bon, ça passe.
ouais, elle s'est cassée une côte, c'est l'horreur, quoi. Et au final, bon, très, très rapidement, j'ai dû faire les deux, trois tournages où je me suis mise dans la merde parce que là, je partais tourner, j'assumais pas de le dire à mon mec, c'était horrible. Je lui disais, non, mais je vais juste faire des photos, je dois enregistrer de la promo, je dois faire machin. Et en fait, il est pas débile, enfin, les réseaux sociaux étaient
C'est
débutants, même
2014-2015.
fonctionnaient très bien. Non, début 2013, Twitter fonctionnait très bien et il avait googlé un acteur, enfin, googlé, twitterisé un acteur
Et qui t'a
avec
tourné?
qui j'avais travaillé.
Ouais.
Et je lui avais pas vraiment dit, en fait. J'avais dit, ah ouais, je vais faire un truc avec Danny D, mais je te jure, il n'y a pas de pénétration, nanana. Parce que j'assumais pas, en fait, de lui dire. Je me sentais vraiment ringarde et pas valable. Et j'y suis allée, j'ai fait mon boulot, c'était pas cool. Et l'acteur tweet après en disant, hey, super journée avec Lisa, j'ai encore 4 scènes avec elle dans les 3 mois qui arrivent. Et là, il m'avait fait un mail en me disant, je ne sais pas si tu n'es pas au courant de ton planning ou si clairement tu te fous de ma gueule, ou si le mec se fourvoie, mais potentiellement, tu es quand même booké là
Et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que déjà, on se mentait, on se traquait, on se faisait du mal. Relation. Non, j'ai arrêté de tourner.
Ah, t'as arrêté de tourner, ok.
Ouais, on est restés 6 ans ensemble. Ça valait le coup.
Et c'est là où tu commences tes études d'infirmière ou je me trompe complètement ?
Non, pas tout de suite. C'est là où je me dis, bon, tu viens d'acheter une maison, t'as 1000 balles de crédit, t'as à peu près 900 balles d'impôts par mois. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ta vie pour gagner au moins 2000 euros et en plus réussir à te nourrir, quoi.
T'as quand même jonglé, hein, parce que je pense qu'aux États-Unis, tu gagnais quand même très bien ta vie.
Ouais, mais j'ai acheté ma maison avec un énorme apport parce que quand on n'a pas de CDI et qu'on est une star du porno, on nous demande d'avoir un énorme apport. Quand j'ai demandé mon crédit, on m'a quand même demandé si j'avais pas un petit monsieur dans le coin pour co-signer le crédit. Donc, genre les remarques les plus sexistes possibles. Ça a été un peu compliqué. Donc, j'ai mis vraiment tout ce que j'avais sur la table pour acheter ma baraque à l'époque. En même temps, j'avais 27 ans. J'avais 27 ans, j'arrivais de nulle part, j'avais pas de contrat de travail. J'ai dit, voilà, je veux acheter cette baraque. Voilà ce que j'ai. Faites-moi un crédit.
Le cash que j'ai ramené des States.
Faites-moi confiance. Moi, j'ai toujours tout déclaré aux impôts. Je suis arrivée avec mes déclarations d'impôts pour prouver que chaque année, mon chiffre d'affaires personnel était OK, quoi. Et ça a été difficile. Hein. Donc, je suis repartie de zéro. Je suis repartie de zéro en étant certes chez moi, mais aussi avec un crédit quand même.
Ça doit être dur, ça,
parce qu'acheter à Bordeaux, ça n'a jamais été donné. Et du coup, je me suis tournée assez rapidement vers la réalisation.
Okay, c'est là que tu tombes vers la réalisation.
On me proposait de réaliser.
On t'a proposé de réaliser, c'est pas de toi-même qui dit je vais mettre dans la réalisation, je vais apprendre.
Non, enfin oui et non. En fait, j'avais croisé le producteur de chez Colmax à Las Vegas et je lui avais dit, tu vois, ce qu'on fait aux États-Unis, il faudrait trop le faire en France, du gonzo, du gros sein, du gros cul, on met de l'huile partout, on les fait niquer. Truc de ouf. Et en France, on ne faisait pas du tout ça. C'était bas, porte, jartel, bijoux, une histoire. Il fallait expliquer cérébralement pourquoi on en arrivait à... et du coup, je suis revenue vers lui. Je lui ai dit, ouais, Vincent, je peux le faire hein, si tu veux. En plus, tu as vu, j'ai un nom et tout. Il m'a dit, OK, banco. Et avec mon mec de l'époque, donc, que j'avais rencontré sur ce tournage parce qu'il était cadreur.
Ah, mais ça marchait.
Caméraman, slash chef opérateur. Enfin, il savait vraiment tout faire. Et ben on a commencé à réaliser des films pour Colmax. Et en fait, en parallèle de ça, donc là, on est début 2013, on commence à réaliser pour Colmax en 2013. On réalise pour eux pendant 3 ans, jusqu'à 2016 à peu près. Et en parallèle de ça, j'étais toujours en reconquête de confiance, de « crois-moi, je suis quelqu'un de bien ». Mise sur moi s'il te plaît dans mon couple parce qu'il y avait eu des mensonges parce que c'était pas évident pour un mec de se dire cette meuf ça va être la meuf de ma vie alors que j'avais eu une vie complètement à l'ouest et donc j'ai cherché un vrai taf quand même et je suis devenue femme de ménage parce que je savais rien faire d'autre, j'avais jamais rien fait donc j'ai cherché du travail et c'est ce qu'on m'a proposé, une sorte d'indépendance cool
et en même temps femme de ménage, ouais,
c'est ça. Wow. À Bordeaux, je travaillais les jeudis et vendredis. Je faisais des ménages les jeudis et vendredis chez les gens qui étaient au travail. Donc, j'avais les clés, je rentrais dans les maisons, je faisais mon ménage et puis je repartais. J'étais bien parce que je ne croisais pas grand monde. C'était une douce réinsertion quand même parce que je n'étais pas confrontée au monde du travail, des collègues, des regards.
Oui, parce que tu étais connue à l'époque quand même,
ouais.
Non ?
Ouais, ouais.
Ton visage était reconnu.
Mon visage n'était pas inconnu.
Ouais.
Et du coup, ouais, j'arrivais avec ma petite voiture, les gens n'étaient pas là, poup, je faisais mon truc. Et c'était une manière de me prouver à moi, de prouver à ma famille, de prouver à mon mec que j'étais tout à fait capable d'arrêter, que je pouvais me sevrer de cette vie, de ces envies, même si je l'ai très mal vécu, hein, parce que pour moi, j'étais à ça du sommet que j'aurais pu atteindre.
C'est ça que je me dis, j'étais dans les paillettes.
Ah ouais, j'avais pas eu le Graal, j'avais pas eu le meilleur actrice étrangère à Las Vegas, et pour moi, c'était un goût d'inachevé, un goût de toutes ces années de travail. Au final, comme femme de ménage, un jour, on me demande d'aller chez une dame. Pas longtemps après, ça devait faire 4-5 mois que j'étais femme de ménage. Mm-hmm. On me dit, ah, tu peux aller chez cette dame. D'habitude, on sait que tu ne vois pas les gens, mais c'est un peu particulier. Elle est tombée dans les escaliers et elle a droit à une aide ménagère par la sécu. Donc, tu fais pareil que d'habitude, tu fais le ménage. Et j'arrive chez Colette. J'arrive chez Colette, qui en fait travaillait à l'Association des paralysés de France. D'accord. Et Colette me demande si je peux lui laver les cheveux, parce qu'elle avait le bras dans le plâtre et tout. Je dis, bah oui, je dis, pourquoi pas, moi je vous lave les cheveux. Hein. Donc, je mets une bassine, un machin, je lui fais ses cheveux. Et pendant une semaine, j'allais chez elle deux ou trois fois. La fois d'après, elle me, me demande si je peux lui faire un peu à manger. Elle me dit que son voisin lui a livré des courses, voir si je peux les ranger. Donc, ce n'est pas vraiment mes missions. Moi, je suis censée faire du ménage. Hein. Mais bon, voilà. Et dernier jour où je vais la voir, c'est la troisième fois. Elle me dit, Émilie, je travaille au Paralysé de France. Et vraiment, tu ferais une super auxiliaire de vie. Et je lui dis, ah bon je sais pas et tout. Elle me dit, passe me voir au Paralysé de France. Appelle, prends un rendez-vous, viens et tout, machin. Bon, j'en parle vite fait à mon mec qui, lui, à l'époque, était toujours dans un mood tu fais de la réinsertion, mais à tout moment, tu peux aller quand même, en une journée, gagner 1500 balles. J'y crois moyen à ton truc. Mmh. Et je vais au Paralysé de France. Il me propose effectivement un job. Je dois faire deux week-ends avec une autre dame qui a de l'expérience pour qu'elle m'explique comment on s'occupe d'une personne tétraplégique, paraplégique ou myopathe. J'y vais, hein. J'y vais, je m'occupe de monsieur allongé au milieu de leur lit, comme ça. Bon, elle m'apprend la toilette, on fait comme ça, le gant du haut, le gant du bas, le machin, le pénilex, c'est comme une capote. Ouais, bon, ok, bon. Mais c'est deux week-ends, c'est deux matinées. En fait, c'était deux samedis matins, c'était même pas des week-ends. J'ai littéralement fait quatre usagers, c'est tout. Et là, ils me disent, bah, si, ça s'est bien passé, si tu veux, on t'embauche. Pas de diplôme, rien du tout. Auxiliaire de vie, c'est quand même un diplôme d'État. Donc bon, mm-hmm. Comme quoi, il y avait déjà des besoins dans le secteur de la santé. Et en fait, c'était hyper bien parce que le mardi, je devais donner mes dispos de la semaine suivante. Et le mercredi, ils me sortaient mon planning de la semaine d'après, du mercredi au mercredi. Donc, ça me permettait de continuer de faire mes tournages en tant que réalisatrice. Des fois de dire ben là je vais travailler que le week-end et d'aller passer toute la semaine avec mon mec parce qu'il était à Paris et moi à Bordeaux, et donc c'était hyper cool. Encore une fois, j'avais une super liberté à la fois dans mon planning, à la fois, puis je croisais pas de collègues, je croisais que les handicapés.
Donc on continue
une espèce de réinsertion un peu douce, un peu valorisante. J'apprenais des choses, je trouvais ça cool. Ouais, et puis un moment on me dit tiens, tu pourrais faire une surveillance de nuit. J'ai commencé à dire, une nuit, on a un poste qui se libère de nuit, tu ferais 9 nuits par mois, tu peux les mettre un peu quand tu veux parce que vous êtes 3 sur le truc et vous vous accordez sur le planning, il faut juste qu'il y ait quelqu'un tous les soirs. Et du coup, je me dis, à la nuit, c'est peut-être mieux que de me taper 5 ou 6 résidents usagers dans la journée, taper de la route et tout machin. Là, je fais toute la nuit chez la même personne, c'est un petit peu mieux payé, bon allez. Et je me rappelle toute ma vie, mon mec m'a accompagnée chez cette dame. Il est resté dehors, hein, mais il m'a accompagnée devant le bâtiment et tout. Je suis rentrée, la dame, elle avait fait un AVC, elle était trachéotomisée, il y avait la traque, elle était complètement rétractée, il n'y a que les yeux qui bougeaient, la sonde urinaire, la stomie. Et là, j'ai eu un choc, en fait. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas formée, là, on est dans du médical, là, il faut un médecin. Comment tu vas gérer cette personne, quoi? Et il y a une aide-soignante qui m'explique. Pour la laver, tu prends le drap, tu la tournes comme ça, tu fais derrière, la prévention d'escarres, ça, ça, ça. Et elle râlait, encore quelqu'un qui n'est pas formé, encore quelqu'un qui ne connaît rien. Elle me dit, tu lis tout le cahier de transmission pour savoir ce qui doit te sauter aux yeux, ce que tu dois écrire. Tu vides la poche à pipi comme ça, tu changes l'alimentation. Elle avait une sonde d'alimentation, mais pas la gastrostomie. Elle avait une sonde d'alimentation. Donc, il fallait mettre la poche d'alimentation quand ça se finissait à la bonne vitesse, machin. Elle avait une sonde urinaire, mais avec une irrigation. Donc, il fallait changer aussi une poche d'irrigation. Enfin, aujourd'hui, infirmière, je me dis, on a demandé ça à une nana qui avait deux mois d'expérience, qui n'avait jamais été formée. C'est ouf, quoi. Et je sors de là, je dégueule dans un buisson. Et je dis à mon mec, oh, c'est chaud. C'est chaud. Je dis, putain, moi, il y a un an, j'étais full Los Angeles, Beverly Hills.
C'est ça que j'ai dans ma tête depuis tout à l'heure. En fait, j'ai ce que tu m'as raconté avant. Je vais tourner tous les jours vers Beverly Hills. Et là, je te retrouve avec quelqu'un.
Qu'est-ce que je fais là? Et je lui dis, ouais, on est sur un truc. La meuf, elle parle pas. La patiente, elle parle pas. Elle te regarde comme ça. Il faut que je passe la nuit à côté d'elle et tout machin. Et elle me dit, ouais, c'est chaud, le fais pas et tout. Je dis, en même temps, c'est un taf cool parce que je vais gagner tant par mois. Tu vois, parce que j'avais dû prendre une colocataire dans ma maison. J'avais acheté une maison pour la partager avec une inconnue pour payer mon crédit et tout. J'étais pas bien, quoi. Et je le fais. Je m'occupe de cette dame quelques temps. Je passe mes premières nuits complètement à la fuite du moindre bip, du moindre truc. Je crois que j'ai fait des préventions escarres toutes les 2 heures. Enfin, j'étais en mode... Le matin, il y avait une aide-soignante qui venait prendre la relève parce qu'elle faisait la toilette complète. Elle changeait les tubulures, les machins, elle faisait son truc. Et l'aide-soignante, elle me dit « Ah, tu pourrais faire une super aide-soignante. » Et ça faisait 2 mois que j'étais auxiliaire de vie. Elle dit « Tu ferais une super aide-soignante, va en EHPAD. Ils prennent sans diplôme. Je te donne tel EHPAD, un Corian. » Maintenant, ils sont dans la tourmente, mais un EHPAD Corian. « Viens, tu vas voir et tout. » Je vais là-bas, chez Corian. Et on me dit « Bah ici, il faut faire 14 toilettes. La journée, c'est 12 heures. C'est payé tant. » Et je dis « Bah ok, quoi. » Et je me suis retrouvée à faire ce qu'on appelle faisant fonction d'aide-soignante en EHPAD.
Okay. Mais tu n'as jamais fait d'école au final Parce qu'à la fin, si. Tu vas être infirmière quand même. Donc,
ouais.
Peu à peu, tu t'es retrouvée.
En fait, à l'EHPAD, toutes les faisant fonction essayaient de passer ce fameux concours d'entrée à l'école d'aide-soignante. Ou alors d'avoir la validation des acquis, la VAE. Et forcément, c'était un échec total. Parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux, en l'occurrence, il y a 3 ou 4 écoles d'aide-soignantes, que c'est des toutes petites promos de 30 à 60 élèves, et qu'on est des fois sur 10 000 candidatures.
Ah, donc c'est difficile d'entrer.
C'est pas un concours difficile en soi d'un point de vue technique, mais c'est hyper difficile parce qu'il faut être extrêmement bien classé. Sachant que si on n'a pas le bac, ce qui était mon cas, il faut faire un écrit et un oral. Et tous ceux qui ont déjà le bac, eux, ils vont que à l'oral. Tu penses que tu as passé l'écrit, tu penses qu'il y a moins de monde à l'oral, mais c'est faux. Parce que tous ceux qui tentent les concours infirmiers, tentent les concours aides-soignants, ils n'ont que l'oral. Et donc, je me dis, allez, je vais tenter. Évidemment, je tente l'école de Pellegrin, donc CHU de Bordeaux, la plus demandée. Et je m'inscris, je vais passer ce concours. J'avais acheté un bouquin que je n'ai pas vraiment travaillé. Je l'ai feuilleté, quoi. Mais en fait, pour moi, j'avais dit à mes parents, j'avais dit à mon mec, je tente le coup, je vois comment ça se passe. Je sais, parce qu'on est quand même dans quelque chose que vraiment, là, on est au-delà de ce que je suis en mesure de faire. Les cours, les horaires, les dames qui savent tout, qui donnent des ordres, qui te traitent comme une gamine. Je lui dis, voilà, moi, à tout moment, je me lève et je me casse, hein, je vous le dis. Je vais y aller, je vais passer le concours, mais bon, tranquille. J'arrive et là déjà la dame elle répète 10 fois dans la salle préparez vos pièces d'identité, préparez vos pièces. Déjà j'avais envie de péter un câble, j'ai envie de dire putain elle nous prend vraiment pour des débiles quoi, c'est pas possible. Je rentre dans le truc, il y avait un texte, question de compréhension, petit résumé. Bon, moi je suis pas allée à l'école depuis 1999, pourquoi pas, tu vois. Après, il y avait des questions de biologie, mais en fait, c'était science et de la vie, de la terre, quoi. Les globules rouges transportent quoi? Les globules blancs, enfin, c'était vraiment niveau 5e, quoi. On n'était pas sur un truc de ouf. Classer les os longs des autres os, le fémur, si tu sais pas que c'est un... Enfin, tu te dis un petit peu, c'est quand même logique que le fémur soit un os long. Donc, franchement, j'ai pas eu l'impression que c'était hyper dur. Les maths, c'était que des règles de 3. Je me rappelle qu'il y avait la recette de la pâte à crêpes. Et que des règles de 3. Bon, je fais le truc, je sors, je l'ai fait en une demi-heure. Je me suis levée, on me dit vous devez attendre le tiers-temps pour sortir. Je me rassieds. Et à un moment donné, elle me fait un signe, c'est bon. Parce que, genre, on avait 2 heures, fallait j'attendre 40 minutes pour sortir. Donc, j'ai bâché le truc, je suis sortie. Et les résultats sont sortis quelques temps après, j'étais pas dessus, j'étais pas dedans. Donc, je dis à tout le monde, bah, ça va, on le savait, tu vois. Je vais aller voir à Pôle emploi si je peux faire une petite prépa concours, puisque vous y tenez, que j'ai un diplôme. Effectivement, ça ne serait pas idiot. Allez, on va faire un diplôme. Et je m'inscris à Pôle emploi pour faire la prépa concours infirmier. Et là, je reçois une convocation à l'oral. Genre, en fait, j'avais eu 15 à l'écrit. Et en fait, en m'inscrivant, j'avais coché la petite case ne pas divulguer mes résultats sur Internet.
C'est pour ça que tu n'étais pas visible.
Parce que je ne voulais pas me taper la honte. Et en fait, j'avais réussi.
Et donc là, tu vas te retrouver à l'oral alors que tu pensais...
Et là, je devais me retrouver à l'oral. Et là, je me suis mis en mode... Ok, c'est quoi un oral? Bah, un oral, mon père me dit, bah, c'est te vendre et être au courant de l'actualité. Il dit, tout ce qu'il s'agit de sanitaire et social, demain, tu dois être incollable. Alors, il m'avait listé les émissions, le magazine de la santé, les infos, aller dans les laboratoires de prélèvement sanguin, voir les magazines, des fois de la recherche de bidules, la recherche de trucs. Il me dit, tu vas au CHU, il y a bien des revues partout, des prospectus pour plein de choses. Tu lis tout ce que tu trouves. Je dis ok. Et je suis tombée sur mon sujet, c'était la recherche, la lutte contre le cancer. J'ai fait un exposé où j'ai parlé, je crois la veille aux infos, il parlait du fait que le test, l'autotest pour le cancer colorectal était enfin disponible en pharmacie en vente libre. C'était beau, je l'avais eu la veille aux infos, quoi. Et en fait, j'ai eu 20 à mon oral, je suis arrivée première à ce concours devant tous ces petits connards qui sortaient du bac et même du bac S.
Waouh.
Et j'ai intégré l'école d'aide-soignante et j'ai passé une année magnifique, même si difficile, parce que je n'étais pas scolaire. Et la première fois, on m'a demandé…
Déjà, à un concours, tu as du mal parce qu'il faut respecter des règles, il y a des gens qui te parlent comme un enfant. Et là, tu vas faire un an à l'école.
Ouais, ça a été chaud. Ça a été chaud. Première fois qu'on nous a remis un texte, ça s'appelait « Le sourire dans le soin ». Et c'était à la fois nous apprendre que sourire, c'est cool avec les patients, mais aussi, on devait faire un résumé de ce texte parce qu'il travaillait notre français, parce qu'on devait être en mesure de faire des transmissions écrites. Et elle avait une règle d'honneur, notre formatrice en chef, mes aides-soignantes savent écrire 3 lignes en français. Elles savent s'exprimer dans leur correspondance, dans leur transmission, à l'écrit, à l'oral. On comprend où elles veulent en venir, on les prend au sérieux. Parce qu'une aide-soignante qui ne sait pas écrire, c'est une aide-soignante qu'on ne prendra pas au sérieux. Et quand elle dira que le patient ne va pas bien, on ne l'écoutera pas. Et donc, il y avait cette fameuse leçon de français, là, et nous donne ce texte sur le sourire, il faut faire un résumé. Je me suis mise à pleurer, j'ai pété un câble. Je ne savais pas faire un résumé. Je ne savais pas faire. Je suis sortie de la salle, j'ai dit, c'est bon, j'arrête tout. J'en ai marre. C'est de la merde. Et je savais qu'en plus, il y avait le mini-mémoire à faire à la fin. On devait fournir un travail d'une vingtaine de pages sur une situation de communication vécue en stage, analyser cette situation, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce qu'on me dit dans les cours, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que le patient il pourrait faire, que j'aurais pu faire, qu'on n'a pas fait. Il fallait faire un truc relié, parce que tu sais, ça m'angoissait. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que j'ai eu des notes excellentes. J'ai adoré toute cette année, j'ai adoré tout ce que j'ai appris. Si bien que je suis sortie de là, diplômée de juillet 2016.
D'accord.
Et en septembre 2017, en septembre 2016, donc à la rentrée, je rentrais à la fac pour passer mon bac pour adulte. Voilà.
Ah, donc, il me faut le bac. Okay, t'as fait... Après, il fallait faire le bac. Ah, c'est le trajet.
Non, j'aurais pu arrêter là et devenir aide-soignante tout de suite.
Ah, mais travailler. Toi, tu voulais après devenir.
Mais je me suis dit, j'ai passé une année trop bien. Il me faut le bac, il faut que je rentre en école d'infirmière.
Je me disais, le porno dans tout ça, il est où? Tu faisais toujours tes réalisations.
J'ai réalisé des films sur les week-ends, sur les vacances.
Ouais, je t'arrêtais pas. Quoi. C'est quand même marrant, infirmière et porno, c'est deux mondes, j'ai l'impression, complètement séparés.
Oui, c'est pas le même monde, mais c'est pas si loin. On est dans l'humain. On, dans les deux cas, on traite avec des gens de manière plus ou moins rapprochée, dans des situations différentes. S'envoyer en l'air avec un inconnu, ça demande au moins autant de tact et de bienveillance que de s'approcher d'une personne qui souffre d'un mal à un instant T et qui compte sur nous pour combler toute cette vulnérabilité de l'instant. Donc, dans tous les cas, il y a des valeurs humaines qui sont certaines. Hein.
Et tu, à partir de quel moment tu deviens infirmière ?
Je passe mon bac, je l'obtiens juillet 2017. Je n'ai pas eu le droit de me présenter au concours infirmier en cours d'année de bac, parce que j'étais une adulte et que le taux d'échec est tellement grand au baccalauréat pour adultes qu'ils ne veulent pas corriger nos copies de concours.
Ah, pas de chance.
C'est sympa.
Donc, tu as dû attendre encore l'année après.
Quand on est une petite merde de 17 ans en terminale, on peut passer le concours infirmier parce qu'il y a plus de chances qu'on ait son bac. Voilà. Ça m'avait atterré. J'ai écouté, je paye 150 balles de concours, j'ai encore même droit à une correction, merde. Ben, en fait, non, tu n'as pas le droit de te présenter. Et donc, j'ai dû attendre une année de plus, effectivement. Pour me présenter au concours infirmier, j'y suis rentrée en septembre 2018.
Et c'est ça, et c'est donc parce que moi je voyais tes stories à l'époque et en plein Covid.
C'est ça.
Infirmière.
Quand le Covid est arrivé, j'étais en stage en CMP, donc un centre de ville de psychiatrie. Ça faisait une semaine que j'étais là et mon lieu de stage a fermé. C'était pas un lieu indispensable. Les patients étaient réorientés vers l'hôpital psychiatrique. Et enfermer tous ces lieux non importants. Et donc, mon lieu de stage étant fermé, mon école devait me parachuter ailleurs pour venir en aide, comme tous les étudiants. Sauf que depuis mon diplôme d'aide-soignante, je suis réserviste comme aide-soignante. Et donc, j'ai été appelée comme réserviste. J'ai été appelée, donc je suis partie dans l'Oise. Au début du Covid, c'est bizarre de dire ça maintenant parce qu'on en est sorti, mais l'Oise et l'Est, c'était nos clusters. C'était les zones où, en tant que soignant, on s'imaginait l'horreur. C'était l'horreur. Hein. Mais, Ouais, et quand j'ai dit à mon père, j'ai été appelée, j'ai accepté de partir, je vais dans l'Oise. Il m'a dit, comment ça à l'Oise? Mais là où il y a le cluster? J'ai dit, bah oui, là où il y a le cluster. Oh, fais attention à toi quand même, nanana, nanana. Et la veille de mon départ, j'ai bu comme un trou toute seule chez moi et j'ai fait un testament. Tellement je ne savais pas à quoi m'attendre.
Ah, t'es
Tellement
vraiment
c'était
peur.
effrayant. Quand ce qu'on voyait à la télévision, ce qu'on disait des chiffres sur BFM, nous, entre nous, on ne se parlait pas, les étudiants. On avait été dispatchés un peu partout. Et étant étudiante à l'époque de deuxième année, la plupart des étudiants de deuxième année ont été utilisés comme aides-soignants pendant le Covid. Parce qu'on n'a pas les compétences proches du diplôme d'un troisième année, mais on n'est pas non plus une première année qui n'a rien fait. Donc, ils travaillaient comme aides-soignants. Et on n'était pas en contact, on a été pris dans le truc. Certains sont restés dans leur stage parce que leur stage est resté ouvert. Donc, ils ont fini leur stage, ils sont restés dans leur stage dans des conditions Covid, avec des collègues qui tombaient malades, avec des tuteurs, des machins, beaucoup de patients, mais dans leur stage. Et d'autres ont été démobilisés de leur stage et mis ailleurs où il y avait des grands besoins, quoi. Tout le monde a été listé, il y a eu des centaines de listings d'étudiants, de soignants, de tout. Et ben moi, du coup, j'ai demandé à l'école un accord pour quitter l'école. Voilà, je suis désolée, je vais vous quitter, mais moi, je suis appelée, je suis réserviste. Et plutôt que d'être une étudiante mal fagotée dans le service parisien où je ne vais peut-être pas être super aidante, je vais aller à l'hôpital, à l'époque, à Creil-Senlis. Je vais aller à l'hôpital là-bas en tant que professionnelle, aide-soignante réserviste professionnelle, en mesure, avec mes collègues réservistes, d'ouvrir des services. Parce qu'il y avait des services entiers qui étaient fermés depuis très longtemps dans cet hôpital qui est en faillite. Et on a ouvert 4 services de Covid, tenus par les réservistes. Donc, on avait des renforts des locaux. Moi, je sais que dans mon service, en l'occurrence, c'était des péricultrices qui venaient, des auxiliaires péricultrices, donc des spécialistes de la pédiatrie, qui se retrouvaient dans un service Covid, au milieu des réservistes, à filer un coup de main sur des adultes. Ce n'était pas du tout ce qu'elles faisaient d'habitude, mais Covid oblige, tout le monde est venu. Et donc, on a ouvert des services, on a travaillé quelques semaines, logés à l'hôtel, confinés dans nos chambres, donc avec pas beaucoup de rapports
Ça
humains.
dure combien de temps?
Je suis restée 4 semaines.
D'accord,
Je
un
suis
mois
restée quatre
confiné.
semaines. On s'est rapidement déconfiné. L'hôtel n'était qu'à nous. Il était fermé. On est entre
Ah ouais.
soignants. On avait une grande salle à manger où on s'est permis, à un moment donné, de prendre nos repas, mais chacun sur une table.
Chacun sur sa table dans la même salle au moins, où
Ouais,
il parlait un peu.
voilà. À la fin de ma mission et de mon Covid, j'avais perdu 11 kilos. Donc,
Wow.
j'étais quand même très fatiguée.
Colanta.
Ouais, j'étais très fatiguée et j'ai enchaîné sur un stage qui a été maintenu. Donc j'ai demandé l'autorisation de quitter. J'ai pas renouvelé en fait à la fin de la semaine. J'ai pas renouvelé ma présence et je suis allée à un stage qui m'avait été attribué, enfin que j'avais demandé et qui était prévu. Et quand je les ai eu au téléphone, est-ce que malgré le Covid vous m'accueillez, vous pensez pouvoir me former? Ils m'ont dit mais bien sûr, vous venez. Et je me suis retrouvée au SAMU 94 pendant 8 semaines. C'était le stage de mes rêves. C'est celui que je voulais depuis le début de mes études. J'aurais été extrêmement déçue qu'à cause du Covid, j'ai pas ce stage, mais j'aurais compris. Et j'étais très contente d'être accueillie au SAMU, même si c'était des conditions particulières. J'ai pas eu d'AVP majeur, j'ai pas eu de gros accidents du travail. Les gens étaient confinés chez eux. Donc j'ai eu beaucoup de Covid. J'ai eu quelques trucs aussi plus particuliers, beaucoup d'accidents domestiques du coup. Les écoles étaient fermées, donc les enfants étaient à la maison. Il y avait beaucoup, beaucoup de pédiatrie. Ils n'en faisaient pas autant d'habitude. Beaucoup, beaucoup de pédiatrie. Et donc, j'ai fait ce grand stage au SAMU pendant le Covid. Et puis, est arrivé l'été.
Ça, c'était
Et
quoi?
on
Était
nous.
2020,
Été
21? Non.
2020, été
Ouais,
2020,
2020.
ouais. Où on nous a autorisés, puisque ça se calmait, à rentrer dans nos pénates, prendre nos vacances scolaires, puisqu'elles nous sont dues. Et j'ai été appelée pour partir à l'époque en Guyane, en mission, avec la réserve. Mais mon état de santé ne me le permettait pas. Honnêtement, j'étais épuisée par ces 2 mois, là, 2, 3 mois de Covid. J'en pouvais plus, j'étais cuite. J'avais déjà eu pas mal de fins de vie dans ma courte carrière professionnelle, mais jamais, jamais des fins de vie aussi inconfortables où j'avais autant de poids sur mes épaules. Je ne pensais pas un jour me retrouver seule face à des gens qui veulent probablement tout le monde sauf moi à leur côté pour leurs derniers instants. Et je suis tombée malade parce que j'ai régulièrement baissé mon masque. Hein. Quand tu as quelqu'un qui est en train de décéder et qu'il n'y a que toi, il n'y a pas la famille, il n'y avait pas de visite, il n'y a pas tout ça, la moindre des choses, c'est de lui faire je sais pas, un sourire, de rassurer. Une fin de vie en Covid, c'est pas beau, hein. Les gens étouffent, ils gaspent, c'est moche, hein. C'est 45 minutes. J'ai eu un monsieur, je m'en souviens de toute ma vie, qui m'a fait 45 minutes d'agonie, je lui tenais la main, j'ai baissé mon masque. Je lui ai dit, monsieur, vous avez une vie super, c'est génial, vous pouvez y aller, c'est cool. Vous êtes bien battu. Je suis sûre que vous avez une famille qui vous aime très fort. Je vais les appeler personnellement. On va leur dire que ça s'est bien passé pour vous. Et c'est cool. On n'avait rien. On n'avait pas de midazolam, on n'avait pas de valium, on n'avait pas tout ce qui est rivotril, tout ça. Il a fallu plusieurs jours pour qu'on nous propose un autre protocole que le protocole habituel, puisque plein de médicaments étaient réservés à la réanimation. On était en galère. Donc, faire une fin de vie sans morphine, sans kéta, sans valium, sans... ce n'est pas des jolies fins de vie. C'est pas des jolies fins de vie. Et pour les familles, c'était hyper traumatisant, pour les patients aussi. Les gens les déposaient aux urgences, ils n'avaient plus le droit de les voir et on les appelait pour dire qu'ils étaient morts. Oh. Bah oui, il y avait pour la famille, il y avait une forme d'abandon. Et pour nous, il y avait une responsabilité encore plus élevée dans ces derniers instants. Et je me souviens aussi que j'avais une dame. Elle avait plusieurs enfants. Et on nous avait dit, il n'y a qu'un enfant qui peut venir la voir. Elle n'aura qu'à une visite. Il dira aux autres comment ça s'est passé. Il n'a qu'à appeler en vidéo pour que ses frères et sœurs puissent voir la dame. Ça m'avait rendu ouf parce que moi, je viens d'une fratrie. On est 6. Je m'imaginais mon père ou ma mère et je me dis alors comment on décide qui y va, quoi. Enfin, c'est horrible. La décision qu'on demande à cette fratrie, enfin, c'est juste pas possible, quoi. Ça va jusqu'à la fin de leur jour les gaver, leur faire un truc. Que toi, tu l'as vu, moi, je ne l'ai pas vu et lui, il n'a pas vu. Quelle horreur. Et du coup, je les ai fait passer par l'escalier de secours et ils sont tous venus la voir.
Ils ont pu être ensemble, mais en plus ça a duré. Après il y a eu les autres vagues, donc tu as dû continuer à chaque fois.
Deuxième vague à la rentrée, j'étais dans une réanimation cette fois pendant 2 mois, et après, après je suis tombée enceinte en février, et j'ai été récusée des Covid, et donc j'ai fait mon stage, ce qu'on appelle le stage pré-professionnel, mon dernier stage d'école d'inf. J'ai pu faire le stage que je m'étais fixé dès le début et dans lequel j'avais été acceptée, c'était les grands brûlés. Et donc, j'ai pu y aller. Parce que s'il y avait eu encore du Covid, j'aurais pu être sortie. Enfin, il y en a qui ont été sortis. Hein. J'aurais pu être sortie de mon choix initial pour répondre à des besoins. À 2 mois du diplôme, on te case comme infirmière. Hein. Voilà, hein, tu vas bosser. Hein. Il y a des besoins. Mais heureusement, j'étais fort enceinte déjà. Et donc, le médecin m'avait récusé. Genre, non, elle va pas en Covid.
Et aujourd'hui, après avoir donc accouché de ton premier enfant, est-ce que tu as fait le travail d'infirmière? Est-ce que tu as été infirmière ou...
J'ai accouché en octobre. Ma fille.
Octobre 2021, c'est vraiment pas longtemps. Là. C'est,
ouais. Non, il y a 8 mois. Mm-hmm. Elle a 8 mois et demi. 8 mois. Et j'ai voulu reprendre le travail quand elle a eu 6 mois, puisque j'ai fait congé parental, etc. Quand elle est rentrée en crèche. Et en fait, j'étais enceinte.
Oui, tu tombes enceinte. Ah, donc, t'as toujours pas été vraiment infirmière. Enfin, t'as pas commencé après le diplôme à travailler.
Non. Ben non, je suis retombée enceinte et je devais travailler à l'hôpital ici, pas loin de chez moi. Et je leur ai dit, en fait, ça sert à rien que vous m'accueilliez, que vous me formiez au poste. Dans 4-5 mois, je serai plus en mesure de travailler. Surtout que j'ai plus 20 ans, j'ai déjà un bébé à charge. Je serai pas allée jusqu'à 7 mois de grossesse au boulot. C'est pas possible. Là, je suis à 5 mois, je suis déjà éclatée au sol, donc c'est horrible. Du coup, je leur ai dit, me donnez pas le poste, en toute honnêteté, je vais juste vous claquer un congé mat très rapidement et vous allez former quelqu'un d'autre qui va prendre la place et que je vais mettre dehors dans un an. Enfin, c'est débile, quoi. Donc, je chercherai tranquillement du boulot plus tard, mais en fait, c'est pas une priorité parce que j'aimerais me former plus. Et mon rêve ultime, le graal de ma vie, c'est d'être infirmière anesthésiste. Et j'aimerais suivre la formation SIAMU ici. C'est une formation qui n'existe pas en France, qui s'appelle Soins intensifs aide médicale urgente.
Finalement, tu n'as pas eu ton bac, tu détestes l'autorité, tu n'as pas aimé ton premier concours, mais tu te retrouves à faire de bonnes études au final à ton âge.
Grave!
À être final une très bonne élève et avoir des super
diplômes. Putain d'intello, c'est horrible. Hein.
En fait, t'es la première de la classe.
j'étais pas adaptée au système scolaire qu'on nous propose plus jeune. C'est juste ça, quoi, surtout.
Et rapidement, tu t'as lancé un podcast, c'est ça?
Ouais. J'ai pas repris le travail à l'hôpital, mais j'ai repris le travail comme Lisa, puisqu'en 2018, quand il s'est agi de faire l'école d'infirmière, il s'est surtout s'agit de la financer. Parce que passer 3 ans, 8 heures par jour en cours ou 12 heures par jour en stage, c'est compliqué d'avoir un boulot à côté, d'aller faire aide-soignante la nuit ou d'aller faire des ménages ou d'aller faire autre chose. Et donc, j'ai ouvert Instagram, j'ai ouvert une page OnlyFans, donc des pages payantes OnlyFans, mimes, et j'ai monté ma boîte de prod en me disant bah, « je vais me remettre à faire des réalisations, mais pas avec une prod. Je vais monter ma petite prod et je vais faire mon truc. » Et en fait, ça a explosé.
Ouais, c'est tout à fait La Débutante, ça c'est le premier film.
Journal d'une débutante, ouais. Journal d'une débutante, ouais, ça a été le premier. Et de là, en fait, depuis, on en a fait 2 par an. Ce qui est largement suffisant parce que c'est quand même 1 an de travail entre l'écriture, la conception, le tournage, la sortie, tout ça. Mes pages payantes, donc OnlyFans, qui devait être un peu de beurre dans les épinards pour pouvoir payer mes 3 ans d'études. Au final, j'en vis et j'en vis bien et je vois l'avenir un peu plus sereinement parce que j'ai passé ma vie en fait à obtenir beaucoup, perdre tout, obtenir beaucoup, perdre tout. Mais avec plaisir, parce qu'à chaque fois, c'était un choix assumé de me dire « allez, stop, c'est fini ». Plus jeune, ce n'était pas forcément un choix. Quand on est passé de chez papa avec un certain niveau de vie à chez maman dormir dans la voiture, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas un choix. Mais j'ai conscience que tout, je sais très bien que du jour au lendemain, on peut ne plus rien avoir. Et j'ai choisi de le faire à un moment donné où ça me paraissait la meilleure chose à faire pour moi. Donc, j'ai conscience que ça peut arriver à nouveau. Et c'est vrai que monter des pages OnlyFans, une page OnlyFans et monter ma boîte de prod, c'était un pari pour financer mes études. Et au final, ça s'est un peu inversé parce que depuis la fin de mes études, je ne fais que ça. Je suis devenue, malgré moi, une personnalité publique qu'on interpelle sur des sujets de société. Je suis devenue légitime à m'emparer de certains sujets. Quand il s'agit de la sexualité, des hommes, des femmes, des libertés individuelles, de la place de la pornographie dans notre quotidien, auprès de nos enfants, quand l'État se pose des questions sur le sujet, je me retrouve au Sénat à exposer le pourquoi du comment de notre profession mérite mieux, et je trouve ça super, je trouve ça génial, et inattendu, parce que j'ai toujours rechigné, toutes les années où j'étais une actrice qui aurait dû le faire, j'ai rechigné à me mettre en avant d'un point de vue public. Je voulais être une star du porno dans le porno. Et aujourd'hui que je ne suis plus du tout actrice, c'est maintenant qu'on vient me chercher et qu'on me demande ce que je pense de certaines choses. Donc, je trouve ça super. Et du coup, mon podcast, c'est un peu la continuité de ça. C'est une manière d'échanger avec le plus grand nombre sans être prise dans un cadre. Parce que répondre à une interview, c'est une chose. On va parler d'un sujet précis, l'interview va être montée, coupée, découpée, et au final, j'ai pas eu de liberté de ton. Et là, j'ai l'opportunité par mon podcast d'inviter qui je veux pour m'emparer du sujet que je souhaite et le dépiauter dans tous les sens et faire des...
C'est toi qui décides des invités, parce que j'ai vu que c'était avec une autre... Il y a un partenariat...
Je travaille avec Magellan. Okay, donc, voilà, Magellan, c'est une application audio. Et donc, ils sont producteurs de mon podcast. Et ils m'ont fait le plaisir de me donner Laura, qui est ma rédactrice, parce qu'en fait, ça s'écrit un peu comme une émission. On fait un séquençage, on travaille un peu sur la carrière de la personne que je veux accueillir pour avoir des petites choses, des petites piques, des petites notes. Voilà. Et donc, c'est un job que je ne maîtrise pas. Les premiers podcasts, j'ai fait énormément d'entre-soi. J'ai l'habitude, moi, d'être interviewée. Donc, c'était un peu bizarre de ne pas du tout parler de moi.
Tu poses des questions, là.
Voilà. Et je me suis améliorée petit à petit. Et je mène de mieux en mieux mes entretiens. Et c'est vrai que c'est une réelle opportunité pour moi d'échanger avec des gens avec qui je n'aurais pas échangé autrement. Je ne vois pas comment j'aurais pu accueillir, des chanteuses, des entrepreneuses qui ont monté leur boîte, des chanteurs, pour parler de l'amour, pour parler de comment, en tant qu'homme, ils ont été oppressés parce qu'on attendait d'eux, les chevaliers servants, pour au final pouvoir en fait se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Enfin, ça a été. Là, je vais enregistrer le dernier épisode de la première saison.
À combien d'épisodes?
La semaine prochaine, il y en a 10.
Donc là, il y en a 2 qui sont sortis.
Il y en a 2 qui sont sortis.
Écoutez, ouais. Je vais écouter les 2 premiers.
Il y en a 2 qui sont sortis. J'enregistre le dernier épisode de la première saison la semaine prochaine. Et j'ai hâte, en fait, que tout sorte, quoi.
Attends, tous les 15 sortir jours. D'un coup,
c'est trop long. C'est trop long. Mais c'est super, ouais, c'est super.
Et je vais pas te prendre plus de temps, j'ai juste deux questions pour finir. Trois en fait. Une spécifiquement pour toi. Déjà, une que j'aurais dû poser dès le départ, c'est pourquoi Lisa Del Sira ?
Lisa, eh ben, à l'époque où je dansais à Bordeaux, je dansais à la Calle Ocho. C'est un bar très cubain et je ne suis pas du tout latine. Et du coup, on avait réfléchi à comment je pouvais bien m'appeler. Et Lisa, c'est venu, voilà, Lisa, c'est venu. Je me souviens que tout le monde avait un peu sorti un nom comme ça. Bidule, truc, je ne sais plus. Puis c'était resté sur Lisa. Et c'est bizarre parce que même des gens qui me connaissaient comme Émilie, qui venaient à la Calier, m'appelaient Lisa à la Calier. Ça ne choquait pas. La Cubana Blanca m'appelait. Et Del Sira, c'est quand je suis arrivée dans le X, on m'a dit, il te faut un nom de famille. Tout le monde a un nom de famille. De manière très honnête, j'ai prétendu être latine parce que j'étais très brune. J'avais les cheveux jusqu'à la chute de rein et j'avais une sacrée chute de rein avec un popotin bien fourni. À l'époque, le porno n'était pas du tout mondialisé. L'Internet est arrivé un peu après. Moi, quand je suis arrivée dans l'UX, c'était encore DVD. Hein. Et je me suis dit, je vais être la méditerranéenne. Et je me suis appelée Del Sira. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Mon père est pied noir, à la base originaire du Limousin. Donc, tu vois, rien à voir. Et ouais. Ma mère, elle est mi-ch'ti, mi-basque. Alors,
ouais, c'est vraiment pas l'Amérique du Sud et le soleil.
Non, mais à l'époque, la personne en France qui voulait consommer un peu exotique, c'était pas évident. Et il y avait Lisa Del Sierra.
Un vrai personnage. Et la deuxième question, c'est pour mieux réussir à l'avenir, pour t'améliorer à l'avenir, quel conseil tu te donnes à toi-même ? Pour être plus sereine à l'avenir, peut-être.
Je ne suis pas faite pour être sereine. Hein. De continuer comme ça, hein. De faire encore plus attention. Tout le monde me dit, mais tu vis comme une smicarde, tu fais super attention à tout, mais bordel, tu travailles pour ça. Ouais, mais non, moi, je fais super attention. Je suis pas radine parce que j'aime m'offrir du bon temps avec mes amis, avec mes parents, mais je fais super attention dans le sens où je me fais pas plaisir pour moi.
D'accord, faire attention à l'argent, ouais. Essayer d'être
ouais, faire encore plus attention, fais d'accord. Attention. Mais je sais pas parce que je veux que mes, comme tous les parents, moi je veux que mes filles elles aient une vie plus facile. Pas une vie meilleure, parce qu'il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de superlatif à la vie. Mais
une vie plus sereine, peut-être.
Une vie plus facile.
Tranquille.
Ouais. Où ça leur paraît plus évident, où elles vont avoir peut-être plus de liberté. Je me suis emparée de ma liberté. Je l'ai forcée, moi. J'ai forcé la porte de la liberté. J'ai forcé le truc en choisissant une carrière qui me le permettait, mais ça a eu un coût. Un coup social, un coup dans le temps, un coup sur ma vie intime, sur l'image que les gens auront de moi jusqu'à après ma mort, le souvenir qui restera de moi si on se souvient de moi un jour. Voilà. Mais je ne regrette pas. Hein. J'aimerais que pour mes filles, ce soit plus facile. J'aimerais que ce soit plus simple. Si elles n'ont pas envie de faire d'études, qu'elles veulent faire, j'en sais rien, moi. Vivre... De sculptures d'argile en faisant de la mosaïque, elles le feront et elles manqueront de rien. Je veux qu'elles aient le choix. Je veux pas comme moi, même si au final j'ai eu la chance de choisir une carrière que j'adore et que j'adorerai toute ma vie, le soin ça fait partie de moi, mais je veux pas qu'elles aient l'impression de me décevoir si elles font pas le bac, des études, un job, un mari, c'est pas grave. De toute façon, on peut tout gérer. On va tout gérer. Et pour ça, il faut avoir les moyens.
Ouais, c'est important. Et trois valeurs de vie de Émilie ?
Trois valeurs de vie. Je suis extrêmement rigoureuse. Ça comprend la ponctualité. Voilà, le respect des lieux. On enlève ses chaussures quand on rentre. Tout ça, la rigueur de manière très générale. Ouais, je suis extrêmement rigoureuse avec moi-même et j'en attends autant des autres, ce qui pose quelques problèmes. Donc la rigueur, première valeur. L'honnêteté, il est tout à fait acceptable de faire de la merde. Faut assumer. Voilà. J'ai laissé entrer le mensonge dans ma vie à une époque où ça me l'a gâché, où ça m'a fait perdre ce que j'avais de plus précieux. Donc, non. L'honnêteté. Ça, c'est... Voilà. L'honnêteté, c'est genre... voilà. Et notre troisième valeur... Bah, la famille, je sais pas si c'est une valeur, mais la famille avant tout, quoi.
Donc, rigueur, honnêteté et famille.
Et
en tout cas, merci beaucoup, Emily.
Ça fait un peu vieille famille corse.
Rigueur, honnêteté, famille.
Ça fait un peu ça.
Mais en tout cas, c'était super cool. Vraiment une belle rencontre. Merci beaucoup pour ton temps. Et parce que je sais que t'étais occupé ces derniers temps, puis c'est pas facile avec la grossesse. Donc, merci beaucoup.
Pas de soucis.
C'était vraiment une belle rencontre.
Merci à toi.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.